ce matin. Un frère l'a rappelé. Il y a de multiples raisons de dire merci. Merci pour l'existence, pour votre propre existence. Merci pour le salut. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour les conjoints. Merci pour les enfants. Merci pour les petits-enfants. Merci pour la nature. Je suis sûr que si je vous donnais le micro, vous auriez de quoi dire merci, n'est-ce pas, chacun d'entre vous? Merci, c'est gentil. Merci pour Norbert. Et dire merci, vous savez, ça agrandit les choses. Tout à l'heure, j'ai salué, il y avait Louis, il y avait Édouard, il y avait Alexis. Alors, ils sont là, Édouard, Alexis, ça, levez-vous. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous allez leur faire un bisou, tout à l'heure. Vous allez voir que ça va vous agrandir, vous allez faire vos étirements matinaux. Dire merci, c'est une bonne chose. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous au sujet de la prière du Notre Père. En tout cas, une de ces demandes qui est incluse dans cette prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. C'est toujours précieux de revenir à cette prière que Jésus a enseignée aux disciples suite à leur demande. C'est les disciples qui ont demandé à Jésus « Enseigne-nous à prier, enseigne-nous à prier ». En fait, dans l'évangile de Luc au chapitre 11, il nous est dit que c'est après avoir vu Jésus prier que les disciples ont demandé à Jésus « Enseigne-nous à prier ». Lorsqu'ils ont vu Jésus avoir un face-à-face avec son Père, ça leur a donné envie de vivre, je dirais, la même chose. Enseigne-nous à prier. Et donc, le Notre Père, c'est l'expression orale du désir du cœur de Jésus qui s'adapte à la situation des disciples. Alors, je vous propose de relire cette prière que Jésus enseigne à ses disciples, donc au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ah bon, ça va. À travers la prière du Notre Père, nous comprenons ce que caractérisent les disciples. Les disciples, à la suite de leur maître, ont ce désir chevillé au corps de voir le règne de Dieu venir. Ils crient, c'est pas seulement une petite prière marmonnée, ils crient pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Ils aspirent à ce que le nom de Dieu soit mis à part au-dessus de tout autre nom. Oui, je crois que le Notre Père, c'est plus qu'une simplement une prière que l'on récite, que l'on marmonne. C'est vraiment le cri du cœur que l'on devrait faire sortir de notre cœur. C'est ce que le Saint-Esprit veut mettre en nous. Mais la prière du Notre Père, ce n'est pas simplement une prière utopique. Jésus, en enseignant la prière, ce désir de voir la gloire de Dieu le Père, tient compte aussi de la faiblesse humaine. Les disciples, tout comme vous et moi, ne sont pas des anges. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Nous sommes des hommes avec des besoins matériels. Nous avons besoin de dire, « Père, donne-nous le pain de ce jour. Père, donne-nous le pain de ce jour. » Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes confrontés à des problèmes de relations. Nous avons besoin de dire, « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et malgré ce désir qui habite en chacun de nous, à chacun d'entre nous, mis par le Saint-Esprit, nous sommes aussi en lutte intérieure. D'où cet appel ardent, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » La prière du Notre Père, c'est un peu comme une pièce de monnaie avec ses deux faces. D'un côté, on a le désir de voir le Seigneur être béni, être glorifié, être mis à part. Et puis en même temps, de l'autre face, de l'autre côté, il y a ce cri pour que nous ne succombions pas à la tentation et pour que le mal ne domine pas sur nous. Alors ce matin, je voudrais parler au sujet de la tentation. Je sais que ce n'est pas tellement un thème d'été, la tentation. Quoique, ce n'est pas très light. Mais ce n'est pas grave. Je veux vous donner, nous voulons avoir les armes pour que nous soyons des hommes et des femmes vainqueurs dans n'importe quelle situation et face à toutes les situations que le monde nous offre, nous tente. Alors regardons un petit peu de plus près comment comprendre cette demande de prière ne nous induit pas en tentation. Alors en lisant rapidement ou en le disant rapidement, on pourrait penser qu'à la demande s'adresse à Dieu qui serait à l'origine de la tentation. Cette prière n'est pas synonyme, ne nous envoie pas de tentation. C'est pas ça que la prière dit. Jacques, dans l'épître, dans son épître, il nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». C'est pas Dieu qui tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Jacques le dit ensuite, l'origine de la tentation, c'est notre propre convoitise. Chacun est tenté, dit Jacques, lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il est aidé en cela par ce que la Bible appelle le tentateur, ou encore l'adversaire, l'ennemi, le diable, Satan. Ce n'est donc jamais Dieu qui est à l'origine de la tentation. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Dieu permet la tentation. Mais il la permet non pas pour que nous y succombions, mais pour que nous en sortions vainqueurs. Et dans ce sens, le mot tentation, et d'ailleurs c'est le même mot en grec, le sens est celui d'épreuve. Celui d'épreuve. Une épreuve, c'est un moyen de permettre à la foi de s'exprimer. Une épreuve, n'a pas le but de nous faire tomber. La tentation n'a pas un but pour que nous y succombions, mais pour que nous soyons des vainqueurs de l'épreuve, pour que nous soyons des vainqueurs de la tentation. Une épreuve n'a pas vraiment pour but de nous faire chuter, mais plutôt le moyen de révéler ce qui est précieux, c'est-à-dire la foi qui habite dans nos cœurs. Et je referme la parenthèse. Alors comment comprendre la prière ne nous induit pas en tentation ? Une meilleure traduction serait « ne nous fait pas entrer dans la tentation », avec le sens d'entrer comme entrer dans un lieu où après on se laisse enfermer. Ou encore, on pourrait aussi traduire d'une autre manière, « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Il y a un père de l'Église qui s'appelle Origène qui a écrit ceci sur ce verset. « Aussi, demandons-nous d'être délivrés de la tentation, non pas de ne pas être tentés, ce qui est impossible surtout aux hommes sur la terre, mais de ne pas succomber lorsque nous sommes tentés. Celui qui succombe à la tentation entre, à mon avis, dans la tentation, puisqu'il est pris dans ses filets. » Alors, ne nous induis pas en tentation, ça ne veut pas dire « préserve-nous de la tentation », mais « préserve-nous de que nous succombions à la tentation ». D'accord ? Il y a un autre petit point que je voudrais aborder. Être tenté, ce n'est pas le symptôme d'une mauvaise santé spirituelle. La tentation est le lot de tous les hommes et chrétiens dans la foi, de tous les hommes, de toutes les femmes, hein, et même des plus grands saints. Même notre Seigneur a été tenté en tout point. La tentation ne prouve pas que je sois un mauvais chrétien. Et bien au contraire, reconnaître la tentation et y faire face, c'est plutôt le signe que mon cœur et ma conscience sont réveillés par l'Esprit Saint. Un non-chrétien, il n'a pas conscience d'être tenté. Il va là où sa conscience l'amène, à faire ce qui est bien, à faire ce qui est mal. Il n'y a pas de quelque chose qui remue en lui lorsqu'il est en face à quelque chose qui est contraire au commandement de Dieu. Le chrétien, il est réveillé par le Saint-Esprit. Il sait ce que Dieu veut. Il désire la gloire de Dieu. Et lorsqu'il est confronté à quelque chose qui est, à l'inverse de ce que Dieu attend, eh bien, il y a ce combat en lui que l'on appelle la tentation. Vous voyez ? Donc le fait que vous soyez tenté, ça ne veut pas dire que vous soyez un mauvais chrétien. Au contraire. Ça veut dire que le Seigneur a mis quelque chose en vous qui est réveillé. Alors après, il s'agit de ne pas tomber et de succomber dans la tentation. Et je dirais aussi, à contrario, il ne faut pas croire que parce que je suis tellement super spirituel que je ne serai pas, tenté. Hein ? La tentation de Jésus se passe juste après son baptême, juste après que les yeux s'ouvrent, que la colombe descend et que le Saint-Esprit le remplit et qu'il entend la voix de son Père, lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est à ce moment-là, c'est juste après ce moment-là, alors qu'il était vraiment, en pleine forme, qu'il a été tenté. La tentation, ce n'est pas un péché. C'est la consommation de la tentation qui est un péché. On peut avoir des pensées mauvaises qui nous traversent l'esprit, mais ces pensées ne constituent pas le péché. C'est lorsque ces pensées s'installent, lorsqu'elles sont nourries, lorsqu'elles deviennent action, alors que le péché est évident. Alors vous connaissez tous la petite image, n'est-ce pas ? Alors, on l'a déjà dit du haut de cette chair, mais je le répète, on ne peut pas empêcher, je crois que c'est Jean-Louis à l'époque qui nous enseignait ça, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de la tête, mais on peut... Hein, c'est qui ? C'est Luther qui a dit ça. Ouais, ben, tu vois, donc c'est même pas Jean-Louis. Hein. C'est Luther. Voilà. Mais on peut les empêcher de faire le nid sur la tête. Alors comment définir plus précisément la tentation et comment agit-elle ? Alors si la vie chrétienne est comparée à une marche, alors la tentation, c'est comme se retrouver à la croisée d'un chemin. La vie chrétienne est une marche, et à un moment donné, je me retrouve à une croisée de chemin. La tentation, c'est se retrouver devant un choix. La tentation n'est pas un péché, je le répète, c'est simplement se retrouver devant un choix. Choix de suivre la voie de Dieu, choix de suivre sa propre voie. Nous avons le récit de la première tentation dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Vous la connaissez, la tentation d'Ève et d'Adam. Et cette première tentation, eh bien, elle a abouti, hein, ça aboutit à la chute. Dieu a placé Adam et Ève dans le meilleur endroit possible. Pas simplement un beau jardin, magnifique, mais le plus magnifique endroit possible pour nos ancêtres. Tout était en abondance. Tout avait du goût. Tout avait de la couleur. Tout avait de l'odeur. Tout avait de la saveur. Un jardin magnifique. Dieu avait dit, servez-vous. Vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, de tous les fruits de ces arbres. Vous pouvez en user à votre convenance. Profiter, user, manger. Il n'y avait qu'un seul arbre auquel ils n'avaient pas droit et dont le fruit ne devait pas être mangé par eux. Car le résultat de cette nourriture, c'était la mort. Tu as le choix. Et Ève fut séduite par le serpent, par l'adversaire qui détourne la parole de Dieu. Le serpent jette son appât, qui est bien attaché à l'hameçon. Satan dit à Ève, « Mais Dieu, non, Dieu n'a pas dit ça. » Tu ne mourras pas si tu prends de cet arbre. Mais Ève mord à l'hameçon, elle n'écoute pas la parole de Dieu. Elle commence à laisser les oiseaux tourner autour de sa tête. et même à commencer à faire son nid sur sa tête. Et puis elle laisse ses sens et ses propres jugements conduire son action. C'est marqué comme ça, le fruit est agréable à la vue, bon à manger. Elle jette un coup d'œil, un deuxième coup d'œil, un troisième coup d'œil. Et puis elle ne peut plus se détacher de cette vue agréable du fruit. Et elle prend du fruit de l'arbre et elle en mange. Ève se retrouve devant un choix. Soit de croire ce que Dieu a dit, soit de croire à la suggestion du serpent et à son propre désir. Et elle juge, elle va juger que son discernement est préférable au commandement de Dieu. Et elle prend du fruit et elle en mange et elle en donne à son conjoint. Alors voilà ce que c'est que la tentation et comment elle agit. Elle est en choix, à la croisée du chemin, entre la parole de Dieu et entre une séduction de l'ennemi. Une séduction, ça séduit, c'est beau. Si c'était mauvais, on se détournerait, hein, vous savez. Et parce que ça séduit, ça nous attire. La tentation, c'est toujours un appel à sortir de la volonté de Dieu, dans le domaine, que ce soit physique, moral ou spirituel. Et le diable sait s'y prendre pour nous jeter les appâts qui nous attirent. Et comment faire pour que nous puissions y mordre dedans. Alors, lorsqu'on parle de tentation... On pense en premier toujours à la tentation d'une sexualité mal apprivoisée ou d'une sexualité hors cadre. Alors c'est vrai que la sexualité, c'est quelque chose qui est une part importante de la nature humaine et que le tentateur s'en sert pour des fins détournées. Et je vous rappelle, et j'en parle spécialement aux jeunes, que la sexualité est voulue par Dieu. Béni par Dieu, non seulement à des fins de procréation, mais aussi à des fins d'épanouissement, de satisfaction, de jouissance, de complémentarité, entre des personnes de deux sexes différents, mais dans un cadre qui les protège et qui s'appelle le mariage. Mais résumer les tentations à simplement des tentations sexuelles, c'est un petit peu méconnaître le filou. Il y a la tentation du pouvoir, la tentation de la vengeance, lorsque quelqu'un nous fait du mal, n'est-ce pas ? Qu'on rumine, qu'on voudrait lui rendre l'appareil, alors que le Seigneur nous appelle à pardonner. Et souvent, moi, j'ai vu dans la vie des chrétiens combien ça pouvait miner la vie des chrétiens, cette rumination de vengeance, d'amertume. La tentation de l'argent, la tentation de l'orgueil, la tentation de l'apparence, la tentation de l'apitoiement sur soi-même, la tentation du repli sur soi. Ça, c'est quelque chose que le diable me tente souvent. La tentation, elle peut être grossière et elle peut être très fine. Ça peut être même avoir des atours de spiritualité. Tu n'es pas bien dans ta famille, et au lieu de servir ta famille, tu dis, ben, je vais servir le Seigneur. Tes parents ont besoin d'aide chez toi. Et toi, tu dis, ben, je vais aller dans ma chambre pour aller prier. Alors que tes parents, peut-être, ils n'ont pas besoin de prière à ce moment-là. Ils ont besoin que tu ailles les aider. Les deux, allez. Etc., etc. La tentation, c'est un choix à un croisement de chemin. Est-ce que je choisis la voie du Seigneur ou la séduction de quelque chose qui va être peut-être un peu plus facile, qui est un peu plus, un peu plus beau? Quand vous avez le choix entre quelque chose de facile et quelque chose de plus difficile, peut-être pour ne pas vous tromper, mais ça ne marche pas à tous les coups, choisissez plutôt ce qui est le plus difficile. C'est souvent la voix du Seigneur. Alors, comment vaincre la tentation ? Alors, Jacques, il dit ceci, mais d'abord, il faut résister. C'est simple, hein ? Résister. Résister, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il va fuir loin de vous. Tout simplement, résister. Résister en cherchant ce qui est bien, dit l'apôtre Paul. Fuis les passions, recherche la justice, la foi, la charité. Résiste en compagnie des frères et des sœurs qui sont avec toi. L'apôtre Paul le dit aussi. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. L'Église, la communauté des frères, la communauté des croyants, est un moyen de protection et un moyen de lutte contre la tentation. Lorsque vous êtes à un endroit seul et que vous êtes tenté par quoi que ce soit, maintenant que tout le monde a des téléphones, des smartphones, etc., un petit coup de téléphone à l'un ou à l'autre, qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant ? Tu appelles au secours. Donc résister en cherchant ce qui est bien, résister avec Jésus dans la prière, résister en compagnie des frères. Et puis, il y a d'autres situations où le Seigneur nous conseille plutôt de fuir. Fuyez, pauvre fou, disait quelqu'un. Hein ? De fuir. Alors, discerner les moments, discerner les endroits, discerner les personnes qui nous font chuter inévitablement. Demander pardon et prendre la décision de ne plus tomber inévitablement. Fuir. Ne jouons pas avec la tentation au point de nous brûler. Il y a un proverbe qui dit « Quelqu'un jouerait-il avec du feu dans son sein sans que ce feu ne mette le feu à ses vêtements ?» Une petite histoire. Un petit garçon tourne autour d'un étalage. « Que fais-tu ici ?» demande le commerçant. « Tu essaies de voler une pomme ?» « Non, au contraire, dit le petit garçon, j'essaie de ne pas la voler. » Pour ne pas la voler, va-t'en de l'étalage. C'est le meilleur moyen, déguerpis. Une tentation n'aboutit pas fatalement au fait de succomber à la tentation. Je répète, une tentation n'aboutit pas fatalement au fait de succomber à la tentation. Jésus a été tenté en toute chose, il a su triompher des tentations auxquelles il a eu à faire face. La plus grande des tentations que Jésus a eu à faire face, ça a été au jardin de Gethsémané. Par trois fois, il a prié ainsi. Et je dirais que cette tentation était légitime, avec un combat extrêmement douloureux. C'est marqué dans l'évangile qu'il y a eu de la tristesse et de l'angoisse. Père, s'il était possible que cette coupe de douleur s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, par trois fois. Mais c'est pour cette coupe, exactement cette coupe des péchés, qu'il était venu. C'est précisément pour cette heure qu'il s'était incarné. C'est précisément pour cela qu'il avait été envoyé, pour prendre cette coupe de nos péchés. Lui, le sans péché, l'homme saint, il a été à un moment donné à ce croisement de chemin où il a accepté cette coupe de nos péchés. Le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, on l'a chanté ce matin, celui que le Père aime, celui qui était sans péché est devenu péché, l'homme péché pour nous. Semblable à l'agneau muet que l'on mène à la boucherie, il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'ôte en le prenant sur lui. Il est devenu l'homme de douleur. Il a souffert la mort sur la croix. Il a résisté à la tentation. Il a accepté la parole de Dieu pour lui. Il a accepté la volonté de Dieu pour lui. Alors aujourd'hui, vivant sur son trône, il peut nous aider, chacun d'entre nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, face à n'importe quelle tentation à laquelle nous pouvons avoir dans nos vies, il est celui-là qui peut nous aider dans la tentation. Alors, frères et sœurs, vaincre la tentation, non plus ce n'est pas un but en soi. J'aimerais que vous le compreniez ça. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à vaincre la tentation ? Pas pour que nous ayons des galons de bons chrétiens, mais pour que nous puissions vraiment ressembler à Christ. Voilà le but, comment vaincre la tentation. Pour que nous puissions être, je dirais, des soldats de Christ, des soldats victorieux qui sont totalement différents de ce monde-là. Cette semaine, il y a eu les attentats à Barcelone. Et chaque fois que, c'est de plus en plus souvent maintenant qu'on a ces informations hein, dans nos chaînes de poste et de radio, chaque fois je me dis, il y a une armée qui donne leur vie pour tuer d'autres personnes. Et je trouve que c'est incroyable, ça me met en colère. Ça me met en colère. Je suppose que vous avez eu même les mêmes réactions. Pas seulement de la tristesse, mais aussi de la colère. La sainte colère, je dirais. Et je crois que le Seigneur veut faire de nous une armée qui donnant aussi nos vies, non pas pour tuer, non pas pour détruire, et pour que le Seigneur en sauve le plus grand nombre possible. C'est Gérard qui nous rappelait que le Seigneur allait chercher cette brebis qui est perdue, et le monde était une brebis perdue. Dieu veut faire de nous des soldats victorieux qui montreront la différence dans un monde qui va à sa perte. Et si Dieu permet la tentation, c'est pour que nous devenions de plus en plus forts, de plus en plus victorieux, ensemble. Pour que le monde, lorsqu'il nous voit, voit ces gens-là, ils sont différents. La prière du Notre Père finit comme ça. Elle commence comme ça. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et elle finit aussi comme ça. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Lorsque je prie le Notre Père, lorsque je prie dans tous les détails de cette prière, mon désir au fond, c'est vraiment de voir la gloire de Dieu. Et au travers de ma vie, au travers de nos vies. Frères et sœurs, soyons différents, soyons forts, soyons victorieux, soyons fiers de notre Seigneur, soyons fiers de notre marche avec lui, soyons courageux pour annoncer l'Évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à vaincre, à être victorieux dans la tentation. Je laisse la place à Samuel.